Seigneur, on vient te remercier pour le temps qu'on a ce matin. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous. Merci de l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Merci de parler à nos cœurs par les chants. Merci de parler à nos cœurs par ta parole. Seigneur, que nos yeux se rouvrent ce matin, qu'on puisse comprendre davantage ce que tu as à nous confier. Ce qu'on désire, Seigneur, c'est de connaître ton message, ton idée, Seigneur, sur le monde présent puis le monde à venir. On veut connaître ta pensée. Je demande, Seigneur, de venir faire un œuvre de transformation dans nos vies, puis nous donner une optique positive en s'accrochant à tes promesses pour qu'on y aille de l'avant par la foi. Puis je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est un peu un message d'une suite de la semaine passée. Quand Daniel y a prêché, il y a ceux qui se rappellent c'était quoi le sujet du message. On a reparlé aussi mercredi dans cellule. C'est « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Ça, c'est le thème. Mais ça, c'est une phrase, c'est un mot. Si on dit « rouvre mes yeux », à quelque part, ça l'implique plus que la phrase « est-ce qu'on veut vraiment voir ce que Dieu a à nous dire ou entendre ce que Dieu a à nous dire ?» Mais les yeux de notre cœur, parce que ça ne soit pas juste quelque chose dans notre tête, ça soit quelque chose dans notre cœur. Puis je crois que le Seigneur, ce matin, si vous êtes attentif puis vous recevez ce qui va vous être donné, ça va vous encourager. Vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul dans la vie pour combattre dans votre vie chrétienne. Le message que je vais vous parler ce matin, c'est on va parler des anges. On va parler des anges, puis ça va nous donner comme une vision encore plus grande du monde invisible qui nous accompagne, puis ça va vous aider à fonctionner dans votre vie. Premièrement, les anges ont été créés avant la création de l'univers. Tout ce qu'on peut voir de matériel, là, la planète, le soleil, mais les étoiles, puis les l'univers, là, on peut même pas savoir la profondeur, la grandeur de cette création-là, mais tout ça fait partie du monde matériel, du monde que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au commencement, c'est au commencement de l'histoire de la terre, et non pas au commencement de la vie. Parce que Dieu existait de toute éternité, puis il y a eu un commencement avant ça, qui, au commencement, Dieu créa les anges. Parce que les anges, eux aussi, c'est des créatures que Dieu a créées. Ils sont pas Dieu, c'est des êtres vivants, invisibles à nos yeux, mais qui sont puissants, beaucoup plus puissants que les humains. C'est une autre création qui est là, qui a été créée avant le commencement de la création terrestre. Il était présent lors de la création terrestre. Il était là, puis il se réjouissait. Ça, on peut voir ça dans Job 38, les versets 4 à 7. Mais je vois beaucoup de versets à les lire, fait que je peux vous les lire, je les ai textuellement. J'ai pas besoin de tourner vos bibles à toutes les fois. Dans Job 38, les versets 4 à 7, Dieu demande à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui en a tendu sur elle le cordeau? » Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie lors de la fondation de la terre et de l'univers. Les anges étaient là depuis le début, au début de la création. Tous les anges jouissaient de la présence de Dieu. Tous les anges. Puis exerçait un service dans le royaume de la lumière, parce que vous savez que Dieu, c'est le royaume de la lumière, puis tous les anges ont été créés dans ce royaume-là, puis ils vivaient une histoire sans fin. Chacun avait sa place dans le gouvernement divin. C'est la même chose que sur la terre. Quand on parle dans un pays, il y a le premier ministre, il y a les ministres, il y a les députés, il y a toute une hiérarchie au niveau du gouvernement, il y a une hiérarchie gouvernementale sur le pays, une hiérarchie du gouvernement dans chaque province, il y a une hiérarchie dans chaque municipalité, le maire, les conseillers, il y a une hiérarchie même au niveau de plus bas que ça, un employeur face à ses employés, ou que ce soit l'homme dans le foyer. C'est un système que Dieu a créé pour les humains, puis ça c'est Dieu qui a voulu ça comme cela, puis il veut qu'on soit soumis aux autorités, mais spirituellement parlant, il y avait le même pattern que Dieu a créé des anges, qu'il y a différents degrés d'anges, il y a des anges plus puissants, il y a des anges qui sont inférieurs, mais qui sont en autorité sur d'autres parties du globe, puis sur d'autres territoires encore plus petits, puis il y a les esprits qui se promènent, qui font des usages de différentes sortes. Tous avaient sa place dans le royaume de Dieu. Puis il y a une histoire qui se déroulait, sans savoir nécessairement combien de temps que ça a duré. On ne sait pas combien de temps que ça a duré entre la création des anges jusqu'à la création terrestre, mais l'histoire s'est déroulée pour un bon bout. La Bible nous donne une description détaillée des divers types d'anges puis leurs grades. Comme Paul y en parle dans Colossiens 1:6, « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » Fait que des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Si on y va, des trônes, c'est des rois, ceux qui règnent sur les peuplades. Des dignités, c'est des personnages importants qui ont une influence dans la hiérarchie. Les dominations, c'est comme des royaumes ou des territoires en dessous de ça, puis plus bas que ça, il y a des autorités. Bon, ça, c'est une description. Dans un autre, dans Éphésiens 6:12, Paul nous dit, « On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, puis contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça fait partie de la dimension invisible qui est là, bien présente, autant qu'on est là, nous autres présents ici assis, là, puis on est soumis à toute une hiérarchie d'autorité humaine. Mais spirituellement parlant, il y a toute une hiérarchie spirituelle invisible, puis tout a été créé en Jésus, puis c'est maintenu par Jésus. Bien, c'est lui qui est la source de toute la vie. Amen. Si on regarde un peu plus loin, on voit d'autres descriptions un peu plus détaillées sur les anges. Premièrement, il y a des archanges. Puis le mot archange, ça veut dire chef des anges. Être un chef, diriger, régner. Il y a des anges qui règnent sur d'autres anges. Dans Jude 1:9, ça nous dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable puis lui disputait le corps de Moïse, tout ça pour nous dire qu'il y avait eu un archange, un chef des anges qui s'appelle Michel. Lui, il nous a été révélé plusieurs fois dans la Bible. Même dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et verset 7, il dit « Il y a eu une guerre dans le ciel, puis Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » À quelque part, ce Michel-là, il était dans le début dans l'Ancien Testament, puis il est encore dans le Nouveau en train de combattre, puis il est chef des anges. C'est un archange. Un deuxième type d'ange qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est les séraphins. Le sens du mot, c'est des anges flamboyants. Ça peut être décrit comme serpent brûlant ou séraphin ou dragon volant, mais quelque part, ça a rapport avec le feu. Puis, les deux places qu'on voit ça dans la Bible, dans Isaïe 6:2 puis dans Isaïe 6:6, c'est marqué des séraphins. Isaïe était face à une vision céleste. Puis il a dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui, puis il y avait chacun six ailes, deux dont se couvraient la face, deux dont se couvraient les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Puis au Isaïe 6:6, mais l'un des séraphins volant vers moi, il tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On voit que les séraphins, il y avait des ailes pour se protéger la face, des ailes pour se protéger les pieds, puis ils volaient. Puis, il y avait un ministère auprès de Dieu, puis il se tenait autour de Dieu, puis il avait pris sur l'autel une pierre ardente. Mais une pierre ardente, ça a rapport à leurs états aussi qu'eux autres mêmes, ils sont des anges flamboyants. Puis la traduction de la parole de Dieu. Ces êtres célestes, ça c'est un petit commentaire biblique dans la Bible Online, il dit, ces êtres célestes sont mentionnés uniquement dans Isaïe 6, puis il y avait la forme humaine, mais possédait six ailes. Deux pour voler, deux pour se couvrir la face et deux pour se couvrir les pieds. Il se tenait au-dessus du trône de Dieu, puis il dirigeait apparemment le culte. L'un d'entre eux toucha les lèvres d'Isaïe avec une braise pour le purifier et annonça que le péché d'Isaïe avait été ôté. Ils apparaissaient comme des créatures morales distinctes et non comme des projections de l'imagination, puis il exerçait un ministère de service auprès de Dieu en rapport avec la purification. Le troisième type d'ange qu'on voit, c'est les chérubins. Un chérubin, c'est un être angélique dont la forme est composée de celle de l'homme, du taureau, du lion et de l'aigle. Ces animaux sont des symboles de force puis d'intelligence. Puis le commentaire biblique, il dit, « Les chérubins gardaient l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. » Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la Genèse, ça nous dit que quand Adam et Ève ont été chassés loin du jardin, Dieu a mis des chérubins pour garder le chemin, il ne faut pas qu'il retourne au jardin d'Éden. Un peu plus loin dans l'Ancien Testament, on voit que des chérubins d'or étaient placés sur l'arche de l'Alliance pour garder symboliquement ce qu'elle contenait et pour offrir grâce et pour la protéger grâce à ses ailes déployées, parce que l'arche de l'Alliance, qui était comme une représentation de la présence de Dieu dans le désert, là, quand que Moïse il avançait avec dans le désert, puis il y avait un lieu où il mettait l'arche, puis cette arche-là était transportée par des Lévites. Mais au-dessus de l'arche, il y avait deux chérubins en or, puis que ses ailes ils recouvraient l'arche. Puis ça, c'est sûr que ça a une symbolique, que les anges chérubins avaient comme une mission de protéger où ce qui était à l'endroit de la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel 10, le char qui soutenait le trône de Dieu était porté par des chérubins. Il y avait des chérubins dans la décoration du temple, ça c'est 1 Rois 6, 23, mais leur aspect n'était pas décrit clairement. Dans une vision d'Ézéchiel, il y avait deux visages, ça c'est Ézéchiel 41, 18, puis dans un autre, il y avait quatre visages et quatre ailes dans Ézéchiel 10, 21. Mais quelque part, ça nous donne une idée qu'il y a différents types d'anges, puis différents ministères dans ces anges-là. La quatrième partie, c'est les anges, ou les esprits, ou les vents. Ça veut dire quasiment tout la même chose. Ça vient d'une racine comme du sens du mot, comme c'est un envoyé, c'est un délégué, c'est un messager. Mais dans la parole de Dieu, on envoie des multitudes sous différentes formes. Il y a des anges qui sont messagers, il y a des anges pour faire le jugement de Dieu, il y a des anges, il y a l'ange de la mort qui frappait même pour de la mort, il y a des anges puissants qui pouvaient faire des miracles quand on parle que Dieu a envoyé son ange devant Moïse pour manifester les signes qu'on a vus. C'est la main d'un ange que Dieu m'a envoyé. Ou à d'autres moments j'ai pas sorti les versets, il y en avait trop. Il y avait des anges protecteurs, il y a des anges des eaux, il y a des anges des vents, il y a des anges là, je pourrais plus en sortir une liste. Même au niveau des vents puis des eaux, il y a des anges qui contrôlent l'eau puis il y a des anges qui contrôlent les vents. On voit ça dans l'Apocalypse. La Bible a dit qu'il y en a une multitude innombrable, que tu peux même pas compter. Dans Apocalypse 5, 11, ça dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Puis leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » C'était le chiffre maximum qu'ils pouvaient dire aux autres dans ce temps-là. Des myriades de myriades puis des milliers de milliers. Fait qu'imagine la multitude d'anges qui existent. Puis tous ces anges-là étaient dans le royaume de Dieu, puis ils servaient Dieu. Il y avait un ministère, il y avait des tâches, il y avait une histoire qui se déroulait. Puis quand que la création de la terre a été faite, ces anges-là étaient là, puis il y avait une administration à faire, à gérer la terre sur différentes choses. On va le voir un peu plus loin. Mais à quelque part, je vais faire comme une parenthèse, je vais vous parler de la chute de Satan. Satan, c'est un chérubin. C'est un des types d'anges qu'on a vus, le même type que celle qui est au-dessus de l'arche de l'Alliance puis qui protégeait l'arche de l'Alliance avec ses ailes. Satan, c'est un chérubin qui était placé sur la sainte montagne de Dieu. Dans la hiérarchie, il était au top des chérubins. Je dis pas qu'il était au top de tous les anges qui existaient, mais il était dans la montagne de Dieu qui représente la hiérarchie du royaume de Dieu. Il était là, puis il était en autorité en Éden, dans le jardin d'Éden, ce qui représente le paradis terrestre. Dans Ézéchiel 28, le verset 13, à partir du verset 13, Dieu parle à Satan. Il dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarpe. Boucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » C'est là qu'on voit que les anges ont été créés à quelque part, puis ce jour-là, il y avait déjà tout un setting de glorieux qui était à sa disposition de cet ange-là. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Satan, au début, il servait dans le ministère de Dieu à exercer comme une protection avec ses anges, le même type quand je vous ai dit au-dessus de l'arche de l'Alliance. Il dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Satan, quand il était créé, il était d'être. C'est un serviteur de Dieu qui était intègre. Puis quand il nous parle que c'est un chérubin aux ailes déployées, ça symbolise aussi un chérubin protecteur aux ailes déployées qui avait le cœur à vouloir faire sa job. Il a faisant, puis il l'était au devant, puis à protéger, puis à prendre soin, puis à faire ce que Dieu lui avait demandé. Puis il est intègre. Depuis le jour où tu fus créé, qui est intègre, jusqu'au jour où celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. À quelque part, Satan, dans son trait glorieux, il a commencé à faire des iniquités, des désobéissances envers Dieu. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence, tu as péché, mais il dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, ça veut dire qu'il est en commerce, il est en train d'administrer une grande autorité, mais aussi un gros commerce. Puis à quelque part, dans son trip de commerce, il a commencé à commettre l'iniquité, puis à avoir des défaillances, à désobéir, puis à être injuste, parce que sa beauté, puis son trip glorieux, il a monté à la tête. Puis là, il dit, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, parce qu'il était regardé, cet ange-là. Il y avait un verset qui parlait de sa beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il était point glorieux, mais il était beau comme ange. OK. Il est clair que le chérubin, il a corrompu sa voix dans son gouvernement à cause de sa grande beauté, de sa grande autorité. Ça lui a monté à la tête, puis il est devenu violent, puis inique. Ça, c'est au verset 16, au verset 18. Puis il est clair que l'orgueil, c'est le mot juste pour désigner la source de sa déviation. La Bible ne nous mentionne pas la longueur de temps qu'il régna dans le gouvernement de Dieu depuis sa création jusqu'à son rejet, mais il est clair qu'il fut débarqué du gouvernement de Dieu puis qu'il a été libre de se promener sur la terre et au ciel avec d'autres anges déchus. Dans Job 2:2, on peut voir un verset qui dit « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre puis de m'y promener. Fait que Satan, même après avoir été jeté dehors de son autorité de la montagne de Dieu, il avait encore la liberté de se promener sur la terre puis de se promener devant Dieu puis de parler avec Dieu. 1 Chronique 21:11, ça nous parle que Satan se leva contre Israël puis excita David à faire un dénombrement d'Israël. Déjà, là, il n'y a pas juste, sa chute n'a pas été juste quand il était tenté, Adam et Ève, à tomber dans le péché. C'est avant ça, il a tombé, il a été jeté de son autorité, parce qu'il était placé en Éden, il devait être le protecteur du jardin d'Éden, mais il a été jeté dehors, puis après ça, il a tenté Adam et Ève, puis après ça, dans l'histoire, il a continué à se promener, puis à faire du trouble partout ce qui passait. Non seulement qu'il a été déchu de son poste d'autorité, mais il a continué à faire du trouble. Il est devenu le chef d'une multitude d'anges rebelles, puis il a continué son règne de destruction. Une image dans l'Apocalypse nous fait penser, OK, pour voir qu'il y a une multitude d'anges rebelles qui le suit, là. Il y a une image dans l'Apocalypse qui nous fait penser qu'il y a seulement un tiers des anges qui l'auraient suivi. Dans Apocalypse 12, 3 à 4, ça nous dit, « Un autre signe parut encore dans le ciel. » Et voici, c'était un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Pourquoi que ça nous parle que c'est le diable qui entraîne les autres anges avec sa queue? Parce qu'au verset 7, là on est au verset 3-4, mais au verset 7, 2-3 versets plus loin, ça dit, il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ça nous parle du dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes et qui entraînait les étoiles du ciel. Michel et ses anges, il a combattu contre ce dragon-là. Ce dragon-là, c'était le diable. Qui était là dans l'histoire de l'Apocalypse, puis tu vois que ça représente une histoire de guerre, puis que Satan il a entraîné le tiers des anges avec lui. Parmi ceux qui ont suivi le diable, il y en a d'autres chefs des anges, des archanges, qui ont suivi le diable. Tu vois, une autre place dans Daniel 10, 13, parce que ça nous parle d'un chef d'un territoire, un ange qui est chef d'un territoire, puis qui s'est opposé au plan de Dieu. Dans Daniel, ça, Daniel, il était en train de prier, puis il attendait une vision de la part du Seigneur, il attendait une parole de la part du Seigneur. Puis Dieu a envoyé l'ange Gabriel, qui est un ange messager, il a envoyé porter le message. Mais pendant qu'il partait pour aller porter le message, Gabriel, il était capturé par un principal des chefs. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça, c'est l'ange Gabriel qui dit que le chef du royaume de Perse, ça veut dire qu'il y a un ange qui est chef du royaume de Perse. Ça veut dire qu'il y a des anges qui règnent sur des territoires. Celui-là, c'est l'ange qui régnait sur la Perse. Il a résisté à Gabriel pendant 21 jours. Mais voici Michael, qui est Michel, l'archange Michel avec ses anges, l'un des principaux chefs. Ça veut dire qu'il y en a d'autres chefs comme Michael qui sont chefs des anges, qui sont des archanges. Il est venu à son secours à l'ange Gabriel, puis il est venu le délivrer de l'emprise du roi de Perse. Puis il dit, je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Puis Daniel, ça nous dit qu'il a attendu 21 jours avant de recevoir sa réponse de la part de l'ange. C'est cet ange-là qui raconte qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a un roi de Perse qui l'a retenu. Il y a des archanges, des chefs d'anges sur différents territoires. Il y en a des archanges qui règnent sur le Canada. Il y en a des anges qui sont en dessous de l'autorité des archanges qui règnent sur le Canada, qui règnent sur la province de Québec, qui règnent sur Montréal, qui règnent sur Châteauguay, qui règnent partout. Ça fait partie de la hiérarchie que Dieu a créée. Mais ce que je vous ai dit tantôt, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a qu'un tiers des anges qui a suivi la rébellion. Moi, ce que ça me dit quand j'ai entendu ça, ça en réjouit mon cœur. Comment est-ce que vous vous sentez en sécurité à Châteauguay, habitant de Châteauguay? Vous vous dites, il y a 50 policiers dans mon poste de police à Châteauguay qui sont en devoir 24 heures sur 24 pour veiller à la sécurité de notre ville. Mais on est 50 000 habitants dans Châteauguay, à part du territoire de Liry, puis de Mercier, puis tous les autres territoires. Mais il y a 50 policiers qui veillent sur nous. C'est quelque chose, ça nous sécure, ça nous sécurise. Mais il y a bien plus que 50 malfaiteurs dans Châteauguay, puis dans la région. Les criminels, il y en a bien plus que 50. Les prisons sont pleines de criminels, puis il y en a encore en liberté. Puis on se sent en sécurité. Ben moi, je me dis, il y a un tiers des anges qui sont rebellés, mais il en reste encore deux tiers avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux policiers pour un ange qui est déchu. À quelque part, ça devrait nous sécuriser de savoir qu'on est sous une protection de la part de Dieu. Bien plus assuré que qu'est-ce que les humains peuvent me donner comme protection. Alléluia. Malgré cette multitude d'anges rebelles, Satan et son armée ne sont pas les plus forts. Apocalypse 12, 7, je reviens avec le passage. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, puis leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont été précipités du ciel. Ça veut dire qu'ils se promènent juste sur la terre présentement. Le diable se promène sur la terre, puis il fait son ravage sur la terre, mais il est sorti de là. Ils l'ont sorti de force. Parce que Satan, c'est pas le plus fort. Malgré qu'il avait un grand commerce, malgré qu'il était beau, c'était pas un archange, c'était un chérubin. Il avait une job de chérubin. Il y a des archanges qui l'ont suivi, mais c'est pas les plus forts. En plus de ça, ils ont tous été vaincus par la résurrection de Jésus. Colossiens 2, 15. Quand Jésus est mort, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Ils sont vaincus de A à Z. Ils sont précipités, puis en plus, ils sont vaincus. Je dis pas qu'ils sont liés pour empêcher de faire du ravage, mais ils se promènent, puis ils font encore, dans leur hiérarchie, ils font encore du trouble un peu partout. Maintenant, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus sont engagés dans le camp gagnant. Parce que le camp de la lumière, le royaume de Dieu, c'est le camp gagnant. La victoire est déjà assurée par Jésus, puis les anges ont été garochés dehors, puis nous autres, on vit sous la domination du royaume de Dieu. On fait partie du royaume de Dieu, puis on est sous la protection de l'environnement de ces anges qui lui appartient. Dieu envoie ses anges pour protéger ses enfants. Dans Psaume 34, 7, il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. » Continuellement, vous êtes ceux qui craignent l'Éternel ici ce matin? Continuellement, vous avez des anges, les anges de l'Éternel qui sont autour de chez vous, qui sont dans la maison chez vous, vous vous promenez en char, sont assis dans le char avec vous autres, ils vous suivent continuellement, puis vous êtes sous la protection divine, puis ils vous arrachent du danger. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas encore, que vous allez voir à l'autre bord, comment est-ce que Dieu est intervenu à des multitudes de fois pour vous protéger. Je dis pas que ça va vous assurer d'avoir aucun péril, parce que ça arrive qu'on a des accidents d'automobile ou d'autres choses, sauf que c'est à voulu et permis dans le plan de Dieu. Il y en a pas quatre choses que le diable aimerait faire, puis il peut pas faire, parce qu'on est sous la protection de Dieu. Dieu il ordonne à ses anges de nous servir. En Hébreux 1, 14, ça parle des anges, il dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, les anges sont au service de Dieu, sont envoyés pour vous servir, puis ils font un ministère envers vous autres, même si vous ne les voyez pas. Ils sont là. Tu vois des places dans la Bible où ils ont apparu et qui ont parlé avec les gens. Mais même quand ils n'apparaissaient pas, ils étaient là pareil. Dans l'Apocalypse 19, 10, ça dit « Et je tombais à ses pieds » parce que là, Jean, l'apôtre Jean, il vient d'avoir une vision d'un ange puis il a vu un paquet d'affaires avec ça. Il dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer » puis il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Il dit « Adore Dieu. » Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit qu'il faut adorer les anges, puis même les anges qui sont de Dieu ne veulent pas être adorés. Si jamais il y a un ange qui vous apparaît, n'allez pas vous prosterner comme pour l'adorer, parce que le mot « adorer » veut dire se prosterner. N'allez pas vous mettre à genoux devant l'ange, c'est un compagnon de service. Il est avec vous pour exercer votre ministère de ce que vous avez à faire pour le Seigneur. Tout ce que vous avez à faire pour le Seigneur, bien Dieu a mis des anges avec vous autres et autour de vous autres, puis ils travaillent avec vous. Gloire à Dieu certain, hallelujah. Un autre passage qu'on a entendu la semaine passée qui parle de ça, c'est que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, en parlant des gens du dehors qui n'en veulent à notre vie. 2 Rois 6, 16, puis là c'est Élisée qui parle à Dieu. Il dit, il est avec son serviteur, puis il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis là, Élisée pria, puis il dit, « Éternel, rouvre ses yeux pour qu'il voie. » Puis l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça devait être quelque chose à voir. Moi, des fois, je regarde un bijou en or. Pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est éterne. C'est rien. Mais un ange glorieux qui est en feu, puis qui est lumineux, puis qu'il y a des chevaux, puis des chars, puis toute la montagne couverte de ces anges-là, ça devait être un spectacle grandiose. Puis ces anges-là, ils étaient avec Élisée pour le protéger. Élisée, il savait, l'autre le savait pas. On dit à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, mais ouvrez les yeux, là, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Ces anges-là sont là autour de vous autres. L'ennemi ne peut pas rien faire contre vous parce que les anges vous protègent. Dieu a des projets de conquête puis combat avec nous. Isaïe 59, 19, il dit, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » L'avez-vous compris, celui-là? Il dit quand même que l'ennemi viendrait comme un fleuve, un armée là, qui vient juste contre toi. Mais il dit l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Parce que les anges de Dieu sont là, puis ils nous sécurisent. Tu sais, amen à cela? Alléluia. Il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. On va le craindre, le nom de l'Éternel, parce que Dieu y intervient dans son histoire, puis en faveur de ceux qui héritent du salut. Jésus, dans sa victoire contre eux, il a reçu le nom qui détient la plus grande autorité et le plus grand pouvoir. Jésus détient le nom qui a la plus grande autorité puis le plus grand pouvoir. Le mot Jésus, c'est puissant. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Tous ces démons-là qui sont rebellés contre Dieu vont avoir à flécher le genou devant Jésus, puis ils vont confesser que Jésus est le Seigneur. Parce que Jésus a reçu cette autorité-là au-dessus de tous. Encore plus fort que cela pour nous, ceux qui sont en Jésus, ils marchent dans l'autorité puis le nom de Jésus. Éphésiens 2, 6, ça dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Pas « il va nous ressusciter ». Nous sommes déjà ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus. Vous êtes présentement assis dans les lieux célestes, dans le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Vous avez cette autorité-là. Ça vous a été donné en Jésus. Malgré que c'est vrai que les démons sont puissants, mais nous sommes dans une autorité puis une puissance supérieure. C'est vrai que Dieu a créé les humains inférieurs aux anges. Jésus est venu inférieur aux anges pour peu de temps, mais il est ressuscité au-dessus de tous les anges, puis ceux qui sont déjà ressuscités sont assis avec lui dans une autre autorité qui est la sienne, au-dessus. Jésus a dit à ses disciples, dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est Jésus qui dit ça, c'est pas n'importe qui. Y croyez-vous que vous êtes assis dans cette autorité-là, au-dessus de tous les démons, de toute la puissance de l'ennemi, de tous les scorpions, puis tout, c'est rien comparé à ce que vous êtes aujourd'hui en Jésus. Il nous a donné d'être plus puissants que toute la puissance de l'ennemi. Nous confessons trop souvent notre peur du diable, la peur de ses plans. Tu sais, des fois, ben, le diable, lui, il veut. On confesse trop souvent cette peur-là, qui n'est pas une peur biblique. C'est lui qui a peur de nous autres. Puis si on se laisse trop souvent facilement ébranler, puis faiblir, à cause de ses mensonges, c'est lui qui nous fait croire qu'on n'est rien. La seule emprise que le diable peut avoir dans votre vie, c'est celle que vous lui laissez. En Éphésiens 4, 27, ça dit « Ne donnez pas accès au diable ». S'il y a de la victoire, que le diable a une victoire sur vous dans votre vie, c'est parce que vous lui laissez prendre cette victoire-là. Parce que lui, il est inférieur à votre autorité que vous avez en Jésus. La Bible nous dit, résistez avec une foi ferme, puis il s'enfuira. Ça, c'est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8-9. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme. Puis un autre passage dans Jacques 4-7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Si tu te mets à résister, il va fuir. Parce qu'il n'y a pas le dessus sur vous. Vous avez le dessus sur lui. C'est vous qui pouvez dire, « Arrière de moi, Satan !» Comme Jésus a dit à Satan directement dans le désert. Puis vous pouvez dire la même affaire. Puis il va s'enfuir. Parce que quand vous prononcez les paroles de Dieu, l'Esprit de Dieu agit avec une puissance, puis les démons l'attaquent, puis lui sauve en courant. Croyez ça. Croyez votre position en Jésus. Quand vous parlez pour vous prononcer les versets de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu utilise cette parole-là, c'est un épée à deux tranchants, puis qu'il frappe, puis lui sauve en courant. Il y a un amen à cela. Savez-vous que le monde qu'on voit dehors, le monde périt à cause de l'ignorance de la victoire de Jésus? Dehors, là, le monde périt à cause de l'ignorance de la victoire de Jésus. Parce qu'ils sont aveuglés sur ce plan-là, mais ils ne voient pas briller la puissance de l'Évangile, puis elle n'est pas agissante dans leur vie. Parce que si leurs yeux se rouvreraient, puis ils laisseraient rentrer le Seigneur dans leur vie, une nouvelle vie viendra de commencer en eux, une vie d'autorité, une vie de puissance sur les démons, puis la victoire, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire est assurée. Vous êtes tous vainqueurs ce matin. Êtes-vous capable de répéter ça? Vous êtes tous vainqueurs ce matin. Nous sommes vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Alléluia. Confessons plutôt nos victoires en Jésus, puis nos victoires à venir, au lieu de confesser des défaites. Si vous arrive un malheur, si vous arrive d'être éprouvé, c'est une épreuve quand Dieu permet à Satan de venir nous attaquer, ou quand notre chair a des tentations, ou quand le monde, les humains viennent nous parler pour essayer de nous séduire. C'est des tentations, c'est des épreuves. Mais résistez. Confessez que vous avez la victoire. Confessez que vous allez avoir la victoire dans vos vies sur toutes ces choses-là. Puis vous allez les voir, ces victoires-là. Parce qu'elles vous appartiennent, sont déjà données. Jésus n'a jamais eu peur du diable puis de ses démons. Puis il nous enseigne de marcher dans la même foi que lui. Quand il a dit à ses disciples, « J'ai donné le pouvoir », mais les disciples sont revenus. Puis ils disent, « Seigneur, même les démons sont soumis. » Jésus dit, « Je l'ai vu, Satan, tomber du ciel. » Il picane des barques à chaque fois que les disciples prenaient l'autorité. Les démons picanent des barques. Mais il lui dit, « Réjouissez-vous pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. » C'est ça qui est notre victoire. On est sauvés. On fait partie du royaume de Dieu. Puis il y a le deux tiers des anges qui sont avec nous autres pour combattre, plus l'Esprit de l'Éternel, puis la victoire nous est assurée dans le nom de Jésus. Saisissez sa parole, puis laissez-vous plus tromper. Et tiens, on mène à cela, pendant que les musiciens s'avancent en avant. Alléluia!